Merci d'être avec nous sur Radio Orient. Il est 17h, le journal avec vous, Nadia Bencher. Au sommaire de cette édition, le président américain hausse le ton face à l'Iran. Donald Trump menace de bombarder chez des infrastructures civiles iraniennes chaque fois que l'Iran tirera sur un navire. Nouveau round de pourparlers entre le Liban et Israël. Il aura lieu le 4 août en Italie. Une nouvelle étape diplomatique annoncée au lendemain du déploiement de l'armée libanaise dans la localité de Zawtar al-Gharbiya, dans le sud du pays. En France, le gouvernement entend renforcer les sanctions contre la diffusion de fausses informations en période électorale à l'approche de l'élection présidentielle. Les peines pourraient aller de 3 à 6 ans d'emprisonnement. Bonjour, je vous le disais en titre, l'escalade se poursuit au Moyen-Orient après une 11e nuit consécutive de bombardements en Iran. Les frappes s'intensifient en journée et s'étendent au-delà des frontières. Les deux principaux acteurs de cette guerre, la République islamique d'Iran et les États-Unis, ne cessent de se renvoyer les attaques, fragilisant toujours plus la stabilité de la région. On fait le point avec vous, Clara Dubancher.
Il paraît loin le temps de cet accord de cessez-le-feu entre les deux pays. Dans la nuit hier, une énième alerte aérienne retentit dans les rues de Téhéran. Le président américain vient d'annoncer de nouvelles frappes et avertit les Iraniens. Il n'en a pas fini du tout avec la guerre. Donald Trump continue donc de riposter sur sa plateforme Truth Social aujourd'hui. Il menace de répliquer à toutes les prochaines attaques de navires par l'Iran dans le détroit d'Ormuz en bombardant les ponts et les centrales électriques. Et selon l'agence de presse iranienne, Tasnim, la menace aurait été mise à exécution en début d'après-midi sur l'île de Larak, au cœur des tensions dans le détroit. Mais l'Iran aussi n'attend plus la nuit pour riposter aux attaques américaines visant les pays voisins alliés de Washington. Cet après-midi, l'armée jordanienne fait état de 6 missiles en provenance du territoire iranien. 4 ont été interceptés et les deux autres ont atterri dans des zones inhabitées. Des sirènes d'alerte ont aussi retenti à Bahreïn, quotidiennement visée par l'Iran. Et surprenamment, une brève alerte de sécurité a même été émise en Arabie Saoudite, dans l'est du pays, à Dammam. Une tentative visant à entraîner le pays dans la guerre au Moyen-Orient qui inquiète profondément le Pakistan, pays médiateur entre Téhéran et Washington.
Merci Clara pour cet éclairage. Et face à ces nouvelles escalades, l'Union européenne a d'ailleurs déconseillé aux compagnies aériennes de survoler les espaces aériens des pays visés par les frappes iraniennes, notamment à cause du risque accru que suscite l'activation de systèmes de défense aériens. La liste comporte entre autres Bahreïn, le Koweït, les Émirats Arabes Unis ou encore le Liban. Et justement du Moyen-Orient et aussi de l'Ukraine, il en sera question entre Sergueï Lavrov et Marco Rubio. Les chefs de diplomatie russe et américain doivent se rencontrer jeudi à Manille en marge d'une réunion de l'ASEAN. Un entretien qui devrait être centré sur les derniers développements alors que Moscou a vivement condamné les récentes frappes américaines contre son allié iranien. L'Italie accueillera le 4 août une nouvelle session de pourparlers entre le Liban et Israël, la deuxième en moins d'un mois. Le premier cycle de discussions organisé mi-juillet à Rome a permis, selon le chef de la diplomatie italienne, des avancées dans la définition des premières zones pilotes, une nouvelle étape diplomatique qui intervient alors que sur le terrain, Beyrouth réclame toujours le retrait total de l'armée israélienne du sud du pays. Le premier ministre Nawaf Salam s'est rendu ce mercredi dans une localité où l'armée libanaise vient de se déployer dans le cadre de l'accord conclu avec Israël, un processus qui reste fragile alors que les tensions persistent sur le terrain. Les précisions de Salma Dakhlaoui.
Le drapeau libanais planté à Zawtar al-Gharbiya dans le sud du pays. Un geste symbolique pour le premier ministre Nawaf Salam au lendemain du déploiement de l'armée libanaise dans cette localité dont les abords étaient contrôlés par Israël. Le chef du gouvernement assure que Beyrouth poursuit ses efforts politiques et diplomatiques pour obtenir un retrait israélien de l'ensemble du sud du Liban. Une demande également portée par le président Joseph Aoun lors de sa rencontre avec Donald Trump à la Maison Blanche. Blanche. Mais sur le terrain, la situation reste tendue. L'armée libanaise accuse les forces israéliennes d'avoir ouvert le feu près de ses unités. Israël affirme avoir seulement tiré des coups de semonce après l'entrée de soldats libanais dans une zone non prévue par l'accord. Conclu en juin, ce texte prévoit le déploiement de l'armée libanaise dans des zones évacuées par Israël, en contrepartie du désarmement du Hezbollah. Une condition toujours rejetée par le mouvement chiite. Israël occupe encore une partie du sud du Liban et poursuit des frappes intermittentes. Plus de 700 000 déplacés ont toutefois regagné leur domicile depuis la dernière trêve, selon l'ONU.
Merci Salma pour ces précisions. Le maire de New York, Zohran Mamdani, reconnaît ne pas avoir l'autorité juridique pour faire arrêter Benjamin Netanyahou en vertu du mandat délivré par la Cour pénale internationale. Il appelle en revanche les autorités fédérales américaines à exécuter ce mandat si le premier ministre israélien se rend à l'Assemblée générale de l'ONU en septembre. Donald Trump a assuré de son côté que Netanyahou ne serait pas arrêté aux États-Unis. 5 ONG ont saisi le Conseil d'État pour demander à la France de prendre des mesures empêchant les entreprises françaises d'exercer des activités commerciales dans les colonies israéliennes. Elles s'appuient sur un avis rendu en juillet 2024 par la Cour internationale de justice qui considère comme illicite la présence continue d'Israël dans les territoires palestiniens occupés et reproche à Paris de ne pas avoir pris de mesures concrètes pour respecter ses obligations internationales. Une démarche qui intervient alors que les Pays-Bas ont annoncé hier l'interdiction à compter du 22 septembre de l'importation, de l'achat et de la vente de produits provenant des colonies israéliennes dans les territoires palestiniens occupés. Les États-Unis devraient annoncer ce mercredi un accord avec l'Arabie Saoudite pour doter le Royaume d'un programme nucléaire civil. C'est ce qu'affirment plusieurs médias américains. Prévu pour une durée de 30 ans, le texte pourrait permettre à des entreprises américaines de construire un complexe d'enrichissement d'uranium dans le Royaume sous certaines conditions. Un projet qui suscite des inquiétudes, notamment au Congrès américain. L'Union européenne tente toujours de parvenir à un accord sur un 21e paquet de sanctions contre la Russie. Les négociations achoppent sur les réserves de la Grèce concernant le transport de gaz naturel liquéfié russe. Parmi les mesures envisagées figure la prolongation du plafonnement du prix du pétrole russe exporté actuellement, fixé à 44 $ le baril. L'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo et en Ouganda a désormais fait plus de 1000 morts selon l'Organisation mondiale de la santé. La RDC concentre l'immense majorité des décès, des cas, avec un foyer particulièrement important en Ituri, dans le nord-est du pays. L'OMS alerte sur une propagation plus rapide que lors de toutes les précédentes épidémies. L'actualité en France, Emmanuel Macron assure qu'aucun objectif chiffré n'a été fixé par la France concernant le nombre de visas délivrés à l'Algérie. Une mise au point faite ce mercredi en Conseil des ministres après des déclarations de l'ambassadeur de France en Algérie qui avaient suscité une vive polémique. Le chef de l'État affirme par ailleurs qu'il n'y a eu aucun laxisme dans la politique française de délivrance des visas. Le gouvernement français veut renforcer les sanctions contre la diffusion de fausses informations en période électorale face au risque d'ingérence à l'approche de l'élection présidentielle. Les peines pourraient atteindre 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende et jusqu'à 6 ans d'emprisonnement lorsque les faits sont commis au profit d'une puissance ou d'une organisation étrangère. Près de 6 000 décès en excès ont été enregistrés en France pendant la canicule de juin, un niveau inédit depuis 2003 selon des données provisoires de Santé publique France. Cette surmortalité concerne toutes les classes d'âge à partir de 15 ans, même si les plus de 75 ans représentent les deux tiers des décès excédentaires. L'Île-de-France a été la région la plus touchée avec près de 2000 décès en excès. Et puis au lendemain de la mort de deux pompiers professionnels en Gironde, les syndicats alertent sur le manque d'effectifs et l'épuisement des équipes confrontées à une saison des feux particulièrement intense, les deux hommes avaient été piégés dans leur camion par un violent incendie près de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, devait rencontrer leurs collègues ce mercredi en fin de journée. Aurore Berger annonce qu'elle travaillera tout l'été à la préparation d'une loi intégrale contre les violences faites aux femmes et aux enfants avec un examen prévu début octobre à l'Assemblée. Le texte doit mobiliser l'ensemble de la société au-delà des seules réponses policières et judiciaires. La ministre déléguée chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes et de la lutte contre les discriminations qui s'exprimait lors de la matinale de TF1 souhaite également créer des juridictions spécialisées dans les violences sexuelles et sexistes.
Loi intégrale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas juste police-justice, c'est-à-dire que c'est l'ensemble de la société qui doit se mettre en mouvement pour garantir la lutte contre les violences sexuelles faites aux femmes et faites aux enfants, à la fois sur la santé, sur l'éducation, sur comment justement on repère, on détecte, on accompagne les victimes. Et on va, dès la semaine prochaine, revoir les parlementaires. Je les recevrai jeudi prochain pour travailler à l'écriture de ce texte. Examen, en effet, dès début octobre, dès le retour, en fait, des travaux à l'Assemblée nationale. Ce que ça doit changer, c'est ça. C'est un changement profond. Fond de culture, c'est sans doute créer des juridictions spécialisées. On y travaille avec le garde des Sceaux parce qu'il y a aussi cette demande qui est très forte de spécialisation de la justice sur la question des violences sexuelles faites aux femmes et faites aux enfants, parce que malheureusement c'est une matière à part, parce que c'est un contentieux de masse. On parle de 160 000 enfants chaque année qui seraient victimes de violences sexuelles. C'est d'abord dans la famille que ça se passe, ou avec des personnes en qui nos enfants ont confiance, qui ont autorité sur nos enfants. C'est tout le sujet du périscolaire qui s'est passé à Paris, mais sans doute pas qu'à Paris. On a mis du temps, sans doute trop de temps collectivement. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie que je vienne sur un plateau de télévision pour rappeler que le fléau des violences sexuelles, c'est d'abord, encore une fois, ce qui se passe dans nos foyers. Le lieu qui devrait être le plus protecteur peut aussi être le lieu qui est le plus destructeur quand on parle de l'inceste. C'est une réalité qui est très difficile à affronter, mais qui est nécessaire pour détecter le plus tôt possible et pour accompagner ces victimes.
Aurore Berger, la ministre déléguée chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes et de la lutte contre les discriminations. Une enquête a été ouverte après le suicide d'un jeune homme de 21 ans dont les proches affirment qu'il avait été victime de plusieurs années de harcèlement raciste. Son corps a été retrouvé il y a une semaine à Châtonnay en Isère. Un drame qui suscite une vive indignation, notamment celle de l'ancienne ministre de l'Éducation nationale et députée Anne Genetet.
Alors le message, c'est d'abord évidemment beaucoup de tristesse et d'infinie compassion pour la famille de ce jeune et puis ses proches. Et d'une manière générale, l'ensemble de notre jeunesse qui voit ça, qui forcément doit s'interroger en disant « Mais est-ce que moi, ça va m'arriver un jour ou pas ?» Et je veux pouvoir lui dire « Mais non, ça ne t'arrivera pas. Non, ça ne t'arrivera pas. Parce que je suis là, moi, pour te protéger, que je m'appelle l'école, que je m'appelle la justice, la police, la famille, l'environnement, la commune, je ne sais pas. » C'est la République française qui doit être là pour te protéger. C'est la promesse républicaine que je veux pouvoir tenir et dont je vois bien, hélas, parfois, qu'elle n'a pas toujours été au rendez-vous et qu'elle fait douter certains de nos concitoyens. Je ne peux pas accepter qu'elle puisse faire douter de notre jeunesse. Ça n'est pas possible. Donc oui, c'est tout cela sur lequel il faut travailler. Moi, j'ai infiniment foi en l'être humain et je veux croire que c'est possible et je veux croire en la raison de nos concitoyens qui doivent entendre que tout comportement, tout propos antisémite, raciste, discriminant n'a pas sa place et que la personne qui les profère ne peut pas être en responsabilité d'aucune manière, notamment en étant élu. C'est ça aussi la promesse républicaine et que je veux que notre jeunesse puisse entendre et qu'elle puisse le croire et en être convaincue.
Anne Genetet est l'invitée de Pluriel ce soir à 19h, une émission présentée par François-Xavier de Calonne. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie et merci à Raymond Jouan pour la réalisation. Je vous retrouve à 18h pour le point de l'actualité. Excellente suite de programme sur Radio Orient.